pas facile d'être amoureux à Montréal. Le ciel est bas, la terre est grise, le fleuve est sale, le Mont-Royal est mal à l'aise, y a l'air de trop. Westmount le tient serré dans un étau. Y a des quartiers où le monde veille sur le perron. Y a un bonhomme qui en a fait une belle. Dans ces bouts-là, les jeunes se tiennent au fond des cours. Ils prennent un coke, ils prennent une bière, ils font l'amour. Il y avait un arbre tous les 20 pieds. Ça fait 20 ans depuis ce temps-là. Ils ont coupé. Ma première blonde, je l'ai rencontrée dans un hangar. On jouait à guerre, elle était espionne. Moi j'étais mort. Assis ses marches de l'escalier du restaurant, j'ai dépensé une bonne partie de mes 15 ans. Avec mon chum Tigil, avec le grand Pocket, on agaçait les filles, puis on s'appelait Tapette. Quand j'étais jeune, j'ai eu de la peine, j'ai ben broyé. J'ai cru mourir quand ma Mireille a m'a laissé. Elle m'avait dit qu'un jour peut-être elle m'appellerait quand ses parents seraient partis pour le chalet. Puis c'est arrivé, un jour ça vienne, un soir de pluie au coin de Beauvien, puis la neuvième. Des fois j'y repense, je revois la fille, puis là je me dis, c'était sans doute le plus beau jour de toute ma vie.
Chanson magnifique de Beau Dommage, Montréal.
La chronique artistique culturelle, je vais lire le texte d'Hugo Dumas dans la presse d'aujourd'hui, intitulé « Le glamour québécois sauce TVA ». La nouvelle ère de la télé-réalité, le luxe, le glamour, Coachella. TVA en a beurré épais au lancement la semaine dernière de sa nouvelle télé-réalité pour célibataires XOXO, qui couvrira les ondes de son extravagance pailletée à l'automne. Comme on dit par chez nous, c'est mieux d'être bon en titi pour accoter cette cascade de superlatifs dorés. Comptez cependant sur l'efficace machine de Québécois Média pour mousser cette marque télévisuelle. Ça sent déjà la surdose multiplateforme, sac de chips, Vidéotron, séjour, Alouette. Question d'importance cruciale maintenant. Associez-vous vraiment la Jet Set internationale à l'ex-lofteuse Elisabetta Fantonnet et au propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, Olivier Primeau? C'est discutable, mettons. Elisabetta Fantonnet, qui s'est recyclée en artiste peintre, a réussi à percer le marché de l'art contemporain de Miami, mais ce n'est pas une influenceuse à la Kylie Jenner ou Gigi Hadid. Olivier Primeau a puisé dans le coffre familial pour ouvrir ou rouvrir le Beach Club avec un succès retentissant. C'est un gars sympathique, bien comique et hyper actif sur les médias sociaux. Est-il glamour? Non. Il entre plutôt dans la catégorie des fêtards à casquette à l'envers, tendance nouveau riche. Le seul des trois conseillers de XOXO qui coche tous les critères d'admission, c'est le styliste montréalais Carrie Tobin, le moins connu du trio. Son compte Instagram nous le montre avec Paris Hilton sur un yacht à Ibiza ou au défilé Chanel à Paris. Carrie Tobin, un vrai globe-trotter, affiche toujours des looks spectaculaires, audacieux, pas mal plus provocants que ceux d'Hubert Lenoir. La publicité de TVA qui s'est déchaînée contre Lenoir après son passage à La Voix, est-il prêt pour l'excentricité décomplexée de Carrie Tobin? Assurément, les présences de Carrie Tobin à l'écran provoqueront une flopée de commentaires pas toujours édifiants. Espérons qu'il réussira tout de même à décoincer quelques téléspectateurs à l'esprit étroit. L'émission XOXO s'amuse dans les mêmes plates-bandes qu'Occupation double que TVA a refusé de raviver à l'automne 2016 quand Julie Snyder le lui a offert. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que TVA envoie directement XOXO dans les pattes de son ancienne démon. On le sait, la popularité d'une télé-réalité ne tient pas au décor époustouflant ou à la marque de l'alcool qui commandite. Elle repose essentiellement sur les concurrents aux personnalités explosives. Enfermés dans deux villes à Bali, Joanie et Sandrick ont offert le feuilleton le plus divertissant de l'automne en buvant des bulles de nuit et du popper ice sur le bord d'une mini-piscine. Dans le concept de XOXO, au contour assez flou, TVA semble davantage miser sur le bling-bling et sur les apparences que sur les rebondissements. C'est peut-être une erreur. Ce qu'on aime dans les productions comme Occupation double, ce sont les triangles amoureux, les prises de bec et les trahisons. Comme TVA se définit comme le diffuseur d'émotions, on imagine qu'il sait déjà tout ça, non? Autre sujet, toujours signé Hugo Dumas, Bébéatrice à la télé. Publiée en 2015, la bande dessinée Bébéatrice, inspirée par les mots d'enfant de la fille de Guy Lepage et Mélanie Campo, traversera au petit écran sous forme de dessins animés. À l'automne, Tout.tv mettra en ligne 20 capsules d'environ 5 minutes des aventures de la très dégourdie Bébéatrice, 4 ans et demi, de son demi-frère Théo, de son papa Guy, de sa mamanie et de sa grand-maman Suzanne. En décembre, Radio-Canada regroupera les sketchs pour les diffuser en format de 4 émissions de 30 minutes. Bébéatrice, sorte de croisement entre les parents et un gars une fille, s'adressera à toute la famille et non pas seulement aux tout-petits. Le ton oscillera entre les moments touchants et les révérences. Guy Lepage prêtera sa voix à Papa Guy, son propre rôle, quoi. La distribution des voix comprend aussi Mélissa Desormeaux-Poulain, Mamanie, Guillaume Lambert, Théo, Muriel Dutille, Suzanne et Elia Saint-Pierre, Bébéatrice. Très allumée, Bébéatrice passera des réflexions sur à peu près tous les sujets. Elle répète tout ce qu'elle entend autour d'elle et laisse parfois échapper quelques sacres. Une bonne partie du matériel de la série provient d'ailleurs de vraies phrases prononcées par Béatrice Lepage, maintenant âgée de 8 ans. « Je suis le script-éditeur de ma fille », constate Guy Lepage, dont la future femme Mélanie coproduit Bébé Actrice avec Luc Châtelain d'Écomédia. J'ai dit Bébé Actrice parce qu'à l'occasion, Guy Lepage appelle sa fille ainsi. Les parents de Béatrice ont tenu à ce que leur fille empoche toutes les sommes liées à ce projet. L'illustrateur Éric Godin, qui a créé le personnage de la BD, reprend évidemment du service pour le dessin animé. Même le chien Attaque, c'est le nom du chien, même le chien Attaque de la famille Lepage-Campo aura droit à son moment de gloire. Francofolie, cette année encore, les Francofolies mettent de l'avant une offre généreuse de spectacles gratuits, plus de 120 concerts, des classiques comme Éric Lapointe, Daniel Bélanger et Marjo, ainsi qu'une panoplie de nouveaux artistes dont Paupière, Zen Bambou, Laf et Corridor font partie de la programmation extérieure dévoilée hier. Parmi les nouveautés de cette année, il y a l'ajout d'une scène sur le parterre symphonique où seront présentés des spectacles de 90 minutes. Alpha Rococo, Laurent Jalbert, Dan Bigras, Les Respectables, Amadou et Mariam, Damien Robitaille, Ludovic Bourgeois, La Chicane et Vincent Vallière y joueront leurs chansons. Une sensibilité à fleur de peau, Samuel Pradier dans le Journal de Montréal, l'acteur Gérard Depardieu rend hommage à la grande Barbara. Sous une pluie d'applaudissements nourris, Gérard Depardieu a fait son entrée sur la scène de l'Olympia mercredi soir pour la première représentation montréalaise de son spectacle « Depardieu chante Barbara ». Rien ne pouvait mieux ouvrir la soirée que « Mémoire, mémoire », chanson extraite du spectacle « L'Illipation » que Depardieu a joué avec Barbara, au milieu des années 1980. Sur la scène, nu, trône un piano à queue devant lequel officie Gérard Daguerre, pianiste de Barbara durant ses 20 dernières années. À ses côtés, dans une quasi-pénombre, Gérard Depardieu, debout le plus souvent, dit et incarne les mots de son ami. Les grands classiques comme « À mourir pour mourir », « Marianne Bad » ou « Le soleil noir » sont interprétés avec beaucoup de douceur et de retenue. Entre les chansons, le comédien dit les mots de Barbara, que ce soit des réflexions, des anecdotes ou des extraits d'entrevues. Il nous rappelle ainsi que la grande dame de la chanson française pouvait être capable de coups de gueule tonitruants. Au milieu de la chanson Drouot, Depardieu fait une digression pour dénoncer la vente aux enchères de ses objets personnels, seulement 2 ans après sa mort. Les morts ne veulent pas des avocats, des notaires ou des testaments, affirme-t-il, avant de se demander comment des commissaires-priseurs peuvent mettre un prix sur des objets qui n'en ont pas. Tout au long de la soirée, la salle a véritablement été suspendue à ses lèvres, comme en communion avec Depardieu et Barbara réunis. Toute la beauté des interprétations de Depardieu tient d'abord dans la sincérité de sa démarche et dans sa manière particulière de retenir certains mots, ou au contraire d'accélérer le rythme à d'autres moments. « Barbara est une des femmes avec laquelle j'ai le plus ri », confie Depardieu avant d'entonner « Emmène-moi » puis « À force de ». Les chansons les plus connues comme « Ma plus belle histoire d'amour »,« L'aigle noir »,« Nantes » ou encore « Göttingen » se déploient dans la dernière ligne droite avec toujours la même intensité. À travers ce spectacle, Gérard Depardieu laisse apercevoir derrière la caricature de l'ogre du cinéma français une grande sensibilité et un cœur généreux. Un secret qui restera gravé dans nos mémoires. Et je suis pas mal d'accord avec ce qu'il est écrit parce que j'ai eu la chance, je dirais, je me sentais privilégiée hier dans la salle de l'Olympia, un spectacle qui contient beaucoup de moments de grâce. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est la franchise de Depardieu et le fait qu'on puisse capter tous les mots. C'est un vrai acteur d'abord et avant tout.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen. Pas de quais et pas de rengaines qui se lamentent et qui se traînent. Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mon Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La 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 la. Mais c'est bien joli tout de même, c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Avant-dernière chanson que l'on retrouve sur l'album, sur le disque Depardieu chante Barbara, c'était la chanson Göttingen.
La nouvelle vient de tomber, c'est dans la presse plus, mise à jour dans un spectaculaire retournement. Donald Trump a annulé jeudi le sommet historique prévu dans moins de 3 semaines avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, dénonçant la colère et l'hostilité du régime de Pyongyang. C'est dans un bref courrier d'une 20aine de lignes adressé aux dirigeants trentenaires que le 45e président des États-Unis a annoncé sa décision de renoncer au face-à-face du 12 juin à Singapour, très attendu en Asie et à travers le monde, dont il avait lui-même accepté le principe à la stupéfaction générale. « J'estime qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre prévue depuis longtemps », indique le locataire de la Maison-Blanche dans ce texte rendu public par l'exécutif américain. Après plusieurs semaines de déclarations très optimistes sur la tenue de ce premier face-à-face entre un président américain en exercice et un représentant de la dynastie des Kim qui règne sur la Corée du Nord depuis plus d'un demi-siècle, M. Trump avait changé de ton ces derniers jours. « J'étais très impatient de vous y rencontrer », poursuit M. Trump dans ce courrier. « Malheureusement, au regard de l'énorme colère et de l'hostilité affichée dans votre dernière déclaration, j'estime qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre prévue depuis longtemps », ajoute-t-il. « Si vous changez d'avis concernant cet important sommet, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire », ajoute le président américain qui avait beaucoup investi d'un point de vue politique dans ce sommet, allant jusqu'à évoquer à plusieurs reprises l'hypothèse d'un prix Nobel de la paix mise en avant par certains élus républicains. Après des mois de rapprochement et de détente diplomatique, la Corée du Nord a opéré la semaine dernière un spectaculaire retour à sa rhétorique traditionnelle, annulant une rencontre intercoréenne et évoquant la possibilité de remettre en cause le tête-à-tête très attendu. Frigo ou comptoir, pas toujours évident de savoir comment conserver ces aliments pour qu'ils gardent un maximum de fraîcheur et de saveur tout en évitant des pertes. Voici quelques astuces d'experts pour 10 produits. Chocolat, frigo ou comptoir, Mathieu?
Dans mon estomac, mais je le dirais dans le réfrigérateur.
Alors, mettre le chocolat au frigo est une erreur.
C'est ce que je disais.
Affirme la chocolatière Joanne Lheureux. Ça brise la molécule du chocolat, le rend très dur, granuleux, il deviendra blanc et goûtera moins, explique-t-elle. Et s'il y a de la ganache à l'intérieur, elle risque de durcir ou de briser à cause du froid. L'idéal est de conserver le chocolat dans un endroit frais, à environ 15 degrés Celsius dans son emballage. On évite de le déposer sur un comptoir en plein soleil. L'été, s'il fait chaud dans la maison, on peut ranger le chocolat au sous-sol ou même au garage. On évite aussi de le placer près des oignons afin qu'ils n'absorbent pas leur odeur et leur saveur. Une tablette de chocolat peut facilement se conserver un an à température ambiante, souligne Joanne Lheureux. Orange, frigo ou comptoir?
Non, comptoir.
Les oranges, tout comme les tomates, sont particulièrement sensibles au froid du réfrigérateur. Mieux vaut donc les garder sur le comptoir, indique la chercheuse scientifique chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Thérèse Charles, spécialisée en physiologie post-récolte. Tout dépend aussi du stade de maturité. Moins l'orange est mature, plus elle est sensible, souligne-t-elle. Comme il est difficile de connaître le degré de maturité d'une orange à l'épicerie, elle pourra mieux mûrir à température ambiante et ainsi donner un maximum de saveur. On poursuit avec pomme, Mathieu.
Réfrigérateur.
Les pommes se conservent très bien au réfrigérateur et y garderont leur fermeté. Mais attention de ne pas les mettre à côté de certains fruits et légumes. Marie-Thérèse Charles explique que les pommes produisent beaucoup d'éthylène, un gaz naturel qui permet aux fruits de mûrir par lui-même. Si on place des carottes, par exemple, à côté des pommes, les carottes absorberont l'éthylène et développeront un goût amer. Mieux vaut donc les placer dans des bacs séparés. Café.
Oh non, ça c'est certainement le comptoir.
Le comptoir. Alors, le café moulu ou en grains ne devrait pas être entreposé dans le réfrigérateur ou le congélateur. Il peut prendre l'odeur et la saveur des aliments du frigo. Et ça ne ralentira pas le processus du vieillissement du café, indique le chef barista et gérant du Café Ingamba à Montréal, Simon-Pierre Caron. Il est préférable de conserver le café dans un endroit sombre avec le moins d'humidité possible et dans un contenant hermétique. Quand on l'achète, mieux vaut donc le transférer du sac en papier à un contenant hermétique. Et afin de garder la fraîcheur et la saveur du café, le barista conseille d'opter pour des grains de café et de les moudre soi-même à la maison au fur et à mesure. Car le café se détériore et commence à perdre de son goût dès qu'il est moulu. Autre point, chaque fois qu'on sort le café du frigo, on l'expose à un changement de température, ce qui provoque une condensation, même s'il est invisible à l'œil nu, explique la chercheuse scientifique Marie-Thérèse Charles. Comme les microbes aiment la présence d'eau libre, le risque que la qualité du produit soit touchée augmente. Et pourquoi ne pas conserver le café au congélateur? Ça brûle la mouture, répond Simon-Pierre Caron. Le café en grains se conserve un mois à température ambiante contre 2 semaines pour le café moulu, précise-t-il. Ail.
Sous un diapchilon?
Hein?
Non, je dis n'importe quoi.
Oui, je vois ça.
Ben, le comptoir, certainement.
Parce que vous aviez entendu aïe, aïe, aïe.
Exact. Oui. C'était une très mauvaise excuse auprès des auditeurs.
Ben oui, mais on vous la pardonne. Alors, si on place l'ail au frigo, il va germer plus vite. Ah bon? Note Mme Charles, mieux vaut le conserver dans un sac en papier à l'abri de la lumière, à température ambiante, ajoute la professeure à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, Nicole-Anne Gagnon. On pourra le conserver 1 à 2 mois. Fraises.
Habituellement, quand j'en achète, elles ne durent pas assez longtemps.
Non, c'est un peu comme votre chocolat.
Je dirais au réfrigérateur. Non, sur le comptoir.
OK. Alors, c'est bientôt le temps de savourer les délicieuses fraises du Québec. Pour garder leur goût sucré, l'idéal est de les conserver sur le comptoir et de les manger rapidement. 1 ou 2 journées après les avoir achetées, conseille la chercheuse scientifique Marie-Thérèse Charles. Car contrairement à l'orange, une fois que la fraise est récoltée, son goût décline, explique-t-elle. Mieux vaut donc ne pas trop en acheter. Autre astuce, on retire les fraises de leur barquette et on élimine celles qui commencent à pourrir car elles accéléreront la détérioration des autres fraises. On peut conserver les fraises dans un contenant qui ne soit pas complètement fermé pour permettre aux fruits de respirer comme dans un sac perforé. Et il en reste quand même quelques-uns. On va accélérer un peu le rythme, Mathieu. Banane.
Comptoir.
Si on dépose une banane qui n'est pas mûre au réfrigérateur, mûrira-t-elle plus vite? Non, répond Mme Charles, même si elle devient noire plus rapidement au frigo. Ce ne sera pas un signe de maturation, car la banane peut devenir noire à la suite d'un choc thermique, c'est-à-dire lorsqu'elle est soumise à une température beaucoup plus basse que sa température optimale. Dans ce cas, elle ne sera pas forcément sucrée, explique-t-elle. La banane sera plus sucrée seulement si elle a noirci à la suite d'un stade de maturité avancé. En la laissant sur le comptoir, on a un meilleur contrôle sur sa maturation. Alors, le pain, lorsqu'on met le pain au réfrigérateur, on l'expose à un processus de condensation, car chaque fois qu'on le sort, on le place à une température supérieure à celle à laquelle il était. Fines herbes ont tendance à rapidement faner et brunir si on ne les conserve pas de la bonne façon. Pour celles à feuilles souples comme la coriandre, la menthe ou le persil, on les lave, on les sèche avec un essuie-tout, puis on les place dans un pot avec environ 1 pouce d'eau au réfrigérateur. Puis on couvre les herbes avec un sac en plastique pour que les feuilles gardent leur humidité et soient protégées de l'air sec du réfrigérateur. Sirop d'érable, on peut conserver le sirop d'érable dans une armoire, même une fois entamé. C'est tout pour l'émission. Merci Mathieu.